France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle George Benjamin. Je suis né à Londres le 31 janvier 60. Et je suis compositeur, chef d'orchestre, peut-être pianiste et professeur de composition.
Ces années de Cambridge qui sont des années importantes dans cet îlot très protégé. Il y a aussi le piano qui est encore un peu là. Je crois que vous jouez de temps en temps encore du piano, peut-être des concertos de Mozart. Donc voilà, il y a la composition qui, on le sent, a peut-être pris le pas sur la vie de musicien que vous voulez avoir, mais quand même, vous continuez à pratiquer votre
instrument. Oui, j'avais joué 2 ou 3 concerts de Mozart au piano. J'avais dirigé le Ré mineur avec un orchestre, avec Peter Gellhorn comme soliste, qui est touchant comme mémoire. J'avais commencé de diriger, j'avais dirigé l'Ascension de Messiaen, très mal dirigé, mais j'avais dirigé le 5, le 6 et le 7 de Beethoven, le Boléro de Maurice Ravel, beaucoup de choses. J'avais commencé aussi à cette époque d'accompagner des films muets au piano, que j'avais fait beaucoup à cette époque.
En improvisation.
Totale improvisation. Complète improvisation. Enfin, j'avais trouvé, sans vouloir être un organiste d'église, j'ai voulu une façon de se servir de mon enthousiasme pour l'improvisation dans un cadre qui n'est pas moi toute seule dans une pièce isolée. Ça veut dire avec devant des autres. Et là aussi, j'avais pris des leçons pour le futur écriture d'opéra, de la relation entre narration, timing, le contrôle du temps et la musique. Hélas, la musique improvisée, la plupart du temps, est très mauvaise. Et finalement, je ne le fais plus parce que je suis horrifié par le manque de qualité dans l'invention qu'en tout cas, moi, je suis capable de faire en improvisant. Mais il y a quand même 2 ou 3 souvenirs de cette époque où j'avais fait des très bons films, où j'avais découvert des choses, des vraies leçons pour l'avenir.
Oui, peut-être que l'image permet de se surprendre soi-même.
Surtout si on ne connaît pas le film. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à moi à Cambridge. On montrait le film de Lon Chaney, Fantôme de l'Opéra, un chef-d'œuvre de film muet. Je n'avais jamais vu le film auparavant. Alors, c'était ma réaction, ma réponse immédiate aux images. Alors, au milieu du film, l'héroïne est capturée par le monstre, le fantôme. Elle est mise en prison et il commence à jouer l'orgue. Alors, j'ai fait un peu de pseudo-bar pour démontrer l'orgue, Ré mineur, qui est devenu de plus en plus fort. Peu à peu, la femme se sépare de... She gets out of her prison.
Elle sort de sa prison.
Elle approche le fantôme. Il continue de jouer l'orgue. J'étais déjà fortissimo. Puis, elle prend son masque et il tourne la tête. Et on voit une figure horrifique. J'étais choqué. Et quoi? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien d'autre à faire, c'est de faire un cluster 9 forte en bas au piano. Alors, comme je vous ai déjà dit, à cette époque, je cassais les pianos. Celle-ci était un piano pas très moderne, 19e siècle, je dirais, mais très grande. Alors, je me suis plongé sur les 10 notes plus graves du piano. Le piano se lève, un demi-mètre dans l'air. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde la publique, 200 personnes dans l'obscurité, tous avec leur bouche ouverte. Tous, 200 bouches ouvertes, terrifiés. Le piano tombe sur le plafond, rebonde à peu près 10 fois, et puis c'est fini. Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? Une très énorme corde, 19e siècle, de ce clavier, a cassé, en laissant des petits morceaux de métal partout dans la basse du piano. Heureusement, ce qui suit est douce et pathétique et sentimental. Là, j'avais besoin de seulement la main droite et le pédale. Et je cherche avec la main gauche qu'est-ce qui est arrivé. Je vois des morceaux de métal. Et puis, il y avait un grand morceau de métal loin que je ne pouvais pas toucher, qui restait et qui était entouré des dernières 6 ou 7 notes du clavier. Et chaque fois que je touchais une de ces notes, bang, 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 une sonorité pas désagréable. Et je me suis servi de cela jusqu'à la fin du film. Et j'ai pris une leçon de cela. S'il y a un problème, dans ce cas-là, la registre grave avec la main gauche, il faut s'en servir. Et les résultats musicaux peuvent être beaucoup plus intéressants si on est complètement libre et tout va bien. Comme compositeur, il faut inventer les problèmes, il faut trouver des problèmes qui sont créativement intéressants.
Vous parlez de ses débuts, George Benjamin, de direction d'orchestre. C'est le souvenir de Fantasia, d'une certaine façon peut-être. Comment vous l'avez apprise? Est-ce que vous êtes resté autodidacte pour ça?
Oui. De temps en temps, j'ai demandé aux gens qu'est-ce que je dois faire. Ils m'ont dit, il faut le faire. J'ai demandé à Pierre Boulez, qu'est-ce que je dois faire? Faites-le, vous devez diriger. Point. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et mon Dieu, comment on fait des erreurs quand on est un débutant de chef d'orchestre. De temps en temps, les orchestres ne sont pas gentils, ils ont la droit. De temps en temps, ils sont gentils, ils sont patients avec un jeune qui a peut-être une bonne volonté, mais pas encore l'expérience. Là, il faut les remercier 100 fois, car c'est vraiment de la charité. J'ai commencé à diriger quand j'avais 11 ans, avec ma musique de scène à l'école, c'était moi qui dirigeais. Comment c'était une science fascinante, la direction d'orchestre. Et comment il faut attendre beaucoup de temps avant de comprendre comment ça marche. Et chaque fois qu'on le fait, on apprend. On apprend quelque chose de comment utiliser le corps, comment de respirer, surtout comment utiliser la main, comment se rester debout sur la scène, relation avec les musiciens, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et comment bien interpréter et comprendre la musique qu'on a devant soi. C'est une leçon qui dure pour toujours. C'est une chose qui est dangereuse pour un compositeur, car on peut, je dirais pas perdre beaucoup de temps, mais on peut passer autant de temps, et tout d'un coup on se rend compte, on n'écrit pas. Alors moi je suis très sévère avec moi-même, je dirige pendant quelques époques, quelques mois, et puis j'arrête pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour écrire. Mais je reviens juste maintenant d'une tournée que j'avais fait avec mes grands amis de l'ensemble moderne et l'ensemble moderne orchestre. Nous avons fait 7 concerts en Allemagne et ici à Londres avec 2 programmes, musique moderne. Et je dois dire, quand ça marche et on est avec des amis comme ça, c'est vraiment une très grande joie. Une très grande joie. Et je ne pouvais pas rester devant une page vide pour toute ma vie. Quand même, j'ai besoin de sortir de temps en temps.
Sont du coup deux vies qui se complètent.
Oui.
Mais qui ne peuvent pas forcément s'épouser en même temps.
Pas du tout. Il y a des, je crois que Pierre Boulez pouvait quitter une répétition le soir, aller dans son chambre d'hôtel et écrire. Je ne comprends pas. J'ai ma tête plein d'autres musiques et je suis fatigué aussi. Ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration, physique autant que mentale. Et non, et en tout cas pour écrire, je dois être très calme et assez isolé et dans une complète différence de humeur et de température et de feeling, de sentiment. Les deux choses sont très éloignées à mon avis, très très éloignées. C'est comme la différence entre un philosophe et un sportif.
Vous avez parlé de Pierre Boulez à l'instant, George Benjamin. Peut-être est-ce l'occasion d'évoquer le moment aussi où vous vous êtes à l'IRCAM, en Tara, toute cette période-là, parce que nous allons venir à votre écriture, à votre façon d'écrire. Mais ici, c'est un travail spécifique que vous allez faire avec ce qu'offre l'IRCAM comme outil, ce qui n'est pas votre quotidien de compositeur.
Non. Et ce n'était pas avant, ce n'était pas vraiment le cas après, mais c'était bien que je l'avais fait. C'était 3 ans, en effet, où j'avais passé à Paris et à l'IRCAM pour faire cette œuvre. J'avais beaucoup appris selon les choses que j'aime faire et selon les choses pour lesquelles je ne suis pas doué. En effet, la musique électronique, ce n'est pas ma chose. Il y a d'autres, beaucoup d'autres qui sont plus doués que moi, mais j'avais appris beaucoup de choses. En effet, ma tête est devenue un peu plus claire, même beaucoup plus claire, après cette expérience. Pas seulement selon la vérité sonore de la musique, la clarté de conception de sonore, où là j'avais beaucoup appris, mais surtout mes conceptions formelles ont été influencées et bouleversées par cette expérience. Le modèle de l'ordinateur m'avait ouvert des modèles de concevoir la forme, la continuité, les types de matériaux qu'on utilise, on se sert pour écrire de la musique. Et ça m'avait changé. Mais quand même, c'est ma seule ou presque la seule œuvre qui se serve de l'électroacoustique. Et en effet, je ne voulais pas que ça sonne électroacoustique aussi. Je voulais faire une musique qui sonne, en guillemets, vraie, pas spectaculaire selon la musique électronique, mais qui sonne musique, comme une musique jouée, dansée et même chantée, lyrique. Mais fait avec des timbres et des harmonies ultra micro-intervalliques qui ne seraient pas possibles dans le monde vrai.
Oui, ça, le micro-intervalle, c'est quelque chose qui vous a passionné à ce moment-là.
À ce moment-là, oui. Et j'avais des claviers où je pouvais expérimenter avec mes sonorités de flûte de pan avec un clavier qui faisait qu'un en demi-ton à travers 88 touchés. J'avais fait énormément d'expériments fascinants, mais finalement, ce n'était pas l'avenue décisive pour mon œuvre.
George Benjamin, Antara, ensemble et ordinateur 4X temps réel. Les grands entretiens de George Benjamin, France Musique.
Ringed by the Flatterism. Comment vous pourriez nous parler de cette œuvre qui va être un grand moment dans votre histoire d'écriture? Quelle est la place des deux grandes figures, Alexandre Goehr, Olivier Messiaen, vous ont accompagné jusqu'alors?
Alors, c'est mon opus 1, en effet. C'est mon première œuvre pour grand orchestre. C'est la première œuvre qui a été jouée au Proms et puis un peu partout en Europe et même plus loin. C'est une œuvre où vous trouviez tout mon enthousiasme pour le grand orchestre depuis ma très extrême jeunesse. Et puis mon enthousiasme aussi, je dois dire, pour les orages. J'ai mis mon tout là-dedans. Que je le vois maintenant de loin, je le dirige de temps en temps, même toujours. Je crois que le matériau musical est influencé par Messiaen. La verticalité des sonorités, les conceptions harmoniques sont pas celles de Messiaen. Mais là, j'avais beaucoup appris. Et comme j'avais aussi beaucoup appris selon le timbre et l'orchestration, et le rythme aussi. Mais la volonté formelle n'est pas du tout celle de mon maître français. J'ai voulu une structure cumulative, où il y a toujours une tension qui n'arrête jamais et où les choses sont en train d'évoluer et transformer. Ça, c'est très loin de la vie musicale de monsieur. J'avais encore du travail à faire car, en effet, c'est le matériel, comment pourrais-je le dire, sans être trop dur avec le jeune compositeur, mais il y a un petit point de rupture entre le matériel sonore elle-même et la volonté formelle et expressive. Et c'est dans ce domaine que je devais faire encore de progrès. Alors, il y a, pas tous dans la musique doivent être lisses et organiques et smooth, pas du tout. Une tension peut être très créative et très importante. Mais je vois maintenant que c'est mon opus 1, j'ai écrit beaucoup moins bien avant et de temps en temps moins bien après. Mais ce n'est pas encore ce que je veux.
Parlons de votre rapport à l'écriture. Évidemment, c'est un grand sujet, mais de savoir déjà comment George Benjamin vous écrivez. Vous nous aviez dit plus vraiment au piano, maintenant à la table, comme on dit. Quel rapport vous avez à la graphie même ?
Il paraît que mes partitions achevées sont assez bien faites, sont pas trop mal à l'œil. Mais mes premiers esquisses sont dévorants et sont mal organisés et plein de mots, plein de diagrammes, plein de notes. En effet, c'est la désordre qui vient vers l'ordre. J'ai des outils maintenant, mais finalement, je ne sais pas vraiment comment écrire la musique. Et je suis perdu et confus, pas seulement au début d'un projet, mais vraiment chaque jour. Même si une œuvre marche très bien, et j'ai travaillé là-dessus pendant 2 ans. Chaque nouvelle page ou nouvelle mesure est un problème. Comment réaliser ce que je veux? Que ce soit quelque chose d'authentique, qui a l'expression qui est obligée, qui marche bien dans la forme, qui n'est pas générique, qui est singulier. Et comment chaque mesure, même chaque note, peut tenir la plus grande forme. Ce sont des très grands problèmes où il n'y a pas de réponse facile. Et aussi, hélas, j'ai une oreille qui est facile, comment on dit ?
Qui est très forte.
Non, pas forte. Qui est exigeante. Exigeante. Et qui demande que je n'écris pas, en effet, un autre qui j'entends pas et qui n'a pas sa place, la bonne place. Cela veut dire que c'est un défi difficile. La seule chose qu'il faut faire, il faut essayer, il faut faire des erreurs, il faut se perdre, et peu à peu, on trouve la route. Et après quelques mois ou quelques années de travail, on arrive à aux dernières notes et c'est fini. Mais en effet, peut-être il faut que ça soit difficile. Je ne suis pas contre l'idée qu'une œuvre est presque un combat avec l'impossible, qu'on essaie de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, que personne n'a fait, et qu'on fait quelque chose qui n'existait qu'avant, et qui est singulier et unifié et qui fait un monde. Et pour là, il faut l'imagination, la patience et du temps et de la chance.
Thank you.
Il faut l'espace aussi. L'espace pour que ça naisse. Ce que oui. je veux dire par là, c'est que peut-être oui. qu'entre les œuvres, George Benjamin, il faut réussir à trouver une forme de vide qui laisse la place à accueillir un monde nouveau ou à le faire émerger. Ou à...
Je suis d'accord. Et c'est pour cela que je me ferme pendant des mois ou des années pour les achever. Et vraiment, je me ferme. Je ne vois plus mes étudiants, presque plus mes amis. Je vois ma famille, et bien sûr mon partenaire, mais je ne vois pas les autres. Et je me ferme pendant des années pour faire des opéras. J'en ai fait 3 maintenant. Des œuvres qui durent 1h30. Là, le monde arrête. C'est quand même une vie étrange, mais je me réveille le matin et je pense l'œuvre chaque jour, tous les jours de l'année, jusqu'au moment où je m'endors. Et de temps en temps, même, je rêve de l'œuvre. Et I live the piece. Comment on dit, j'habite, non?
J'habite...
100% oui. dans l'œuvre elle-même. Et c'est pas seulement que, comme cela, je crois, c'est possible d'avoir un type d'unité et completeness, comment on dit ?
De complétude.
Oui, de l'œuvre. Mais aussi, c'est seulement dans cette façon que je peux, en effet, trouver les notes que je veux. Mais c'est un très drôle, strange thing.
Vous parliez, George Benjamin, de cette forme qui évolue. Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose d'organique, c'est-à-dire que la musique que vous écrivez génère la note suivante? Est-ce que c'est elle-même qui se...
Ça, c'est une question extrêmement intéressante et trop simple. On était obsédé au XXe siècle par un type d'organicisme réductif. Selon la pensée de Schoenberg, dans un certain sens, mais aussi la philosophie du 19e siècle, du 20e siècle, qui voyait un type d'organicisme de perfection, comme on voit dans la nature, dans la grande essence des arbres, par exemple, l'arborescence. Je ne suis pas convaincu que les choses sont aussi simples, surtout au drame musical, au théâtre. Il faut avoir à la fois l'organicisme et la connexion entre les choses, mais il faut aussi une grande quantité de diversité. Et aux compositeurs qu'on pense les plus organiques, Pierre Boulez par exemple, il y a selon ses esquisses, sa façon d'écrire souvent des grandes ruptures inattendues, presque surréelles dans la façon dans laquelle il écrivait la musique. Mais le résultat est 100% Boulez et 100% génial, mais ce n'est pas aussi facile d'une perfection d'organicisme. À la fois, la rêve d'organicisme parfait est une chose merveilleuse, mais très dangereuse. Pas tout le monde est fait pour cela, et il y a beaucoup de façons de concevoir la morphologie musicale. Nous ne sommes pas la même chose que des arbres, ni comme un virus. Donc, l'imagination, le destin, les émotions des êtres humains est beaucoup plus compliqué, et il y a un mélange de choses. Alors, je dirais pas que, malgré que je suis très ouverte à ce rêve. Je garde une distance maintenant.
Mais c'est l'inattendu versus le processus.
J'aime pas le mot processus. Dès qu'on voit comment quelque chose est fait, la quatrième fois, c'est un manque de mystère. Il faut que le processus soit caché profondément dans le corps de la musique, qu'on ne le perçoit pas. En tout cas, mon imagineur voulait le casser aussi. Les ruptures formelles sont aussi importantes que l'agrandissement lisse et logique, logique linéaire. Je crois que cette pensée formelle est devenue d'une crise musicale. Comment écrire de la musique et concevoir des formes quand les moyens d'écriture, les techniques d'écriture ont été cassées? Et alors, l'extrême organicisme donne une réponse séduisante à ce problème, mais ce n'est pas la seule réponse. Excusez-moi, je ne m'explique pas si bien. D'abord parce que c'est en français, et puis c'est une chose compliquée, et je ne suis pas philosophe.
Sudden Time de George Benjamin par l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par le compositeur. Ainsi se clôt le quatrième épisode des Grands Entretiens avec George Benjamin, réalisation Perrine Minguy, prise de son Thibaut Nassimben, mixage Cédric Chatelus, attaché de production Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Podcast et réécoute sur francemusique.fr. France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.